La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Bien le bonjour à la midinale de Radio Piquet de ce 6 juin 2022. Une midinale un peu particulière aujourd'hui, on a plein d'invités autour des micros, c'est cool. Et voilà, on reçoit Pierre-Yves Cadalin à l'antenne. Et oui, et Nico, tu vas nous dire un peu plus pourquoi on est tous réunis autour de ces micros aujourd'hui.
Ouais, donc moi c'est Nico. Du coup, dans cette midinale, on a invité Pierre-Yves Cadalin, qui est le candidat de NUP. De la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Du coup, c'est dans le cadre des élections législatives qui vont se tenir là le 12 et le 19 juin prochain, suite aux élections présidentielles où Macron a été réélu. On reviendra sur ce contexte-là de politique plus générale. Mais en gros, autour des micros, y a Pierre-Yves, du coup, qui est là.
Bonjour.
Il y a Bastien.
Bonjour.
Et il y a aussi Marouane et Édouard. Et Patoche. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, il n'y a pas de problème. Hein. C'est une discussion libre. Voilà, on va discuter en grosso modo. On va discuter de quoi ? On va discuter des grands enjeux qui sont derrière des élections. Et en fait, les grands enjeux plus globalement sur la situation politique générale. D'un point de vue général, on est dans une situation catastrophique sur le plan écologique, social, économique. Il y a eu 2 ans de Covid qui ont exacerbé déjà des crises qui étaient déjà présentes depuis longtemps. Du coup, dans le contexte des élections présidentielles, qui a reconduit Macron et du coup derrière une politique néolibérale assez autoritaire et violente, Macron a été réélu avec un deuxième tour qui a été une espèce de remake du 2017 avec, la fausse opposition, ça c'est mon point de vue, entre Le Pen, qui représenterait un fascisme, un nationalisme assez clair hein, quand on voit leur programme, face à Macron, qui représente peut-être l'ordre bourgeois, pour le dire simplement, dans un premier temps, a émergé. C'est peut-être l'enseignement le plus intéressant de ces élections présidentielles. A émergé une force de gauche, on va dire ça. Dans un premier temps, de manière assez simple, une force de gauche qui se présente comme une force qui veut rompre avec le capitalisme. Alors cette force de gauche, c'est quoi ? C'est le mouvement de la France insoumise, de l'Union populaire, qui avait pris ce nom-là il y a 2 ans, je crois, ou plus, je ne sais plus.
C'est un peu plus récent, ça.
Un peu plus récent. Du coup, qui se présente comme un bloc, là, est apparu comme un nouveau bloc. C'est comme ça qu'il parle, du bloc populaire, qui a une vraie force. Maintenant, en tout cas, électoralement, il y a une vraie force. Mélenchon a fait 22% aux élections présidentielles. Du coup, l'enjeu, il va être, grosso modo, premier point, stratégie politique. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie politique ? Moi, je vais dire tout simplement, c'est on a une vision du monde, on a des objectifs. Là, ça serait rompre avec le capitalisme. Comment on fait, en fait ? Comment on met en place une stratégie pour arriver à cet objectif ? Objectif compliqué, hein, je veux dire, c'est pas une partie de pique-nique, comme disait le camarade Mao, qui n'est pas forcément un camarade, mais bon, bref.
Un dîner de gala.
Ce n'est pas un dîner de gala de rompre avec le capitalisme. Deuxième point, c'est peut-être discuter, mais qu'est-ce qu'on entend par démocratie et où en est notre démocratie aujourd'hui, là, en 2022, quoi ? Où elle en est ? Est-ce qu'on est d'accord, déjà, pour dire « vit-on en démocratie ?» Qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là, fondamental ? Tout le monde se réclame de la démocratie. Mais en fait, derrière, peut-être qu'il y a des enjeux idéologiques qui sont pas avoués. Donc il faudra se mettre d'accord sur les termes. Et peut-être, si on a le temps, revenir sur le programme porté par, par l'Alliance, par NUP, sur leur programme, sur les, comment dire, sur ce qui est marqué comme action et comme moyen d'y parvenir, qui sont assez clairs parfois. Hein. Il y a des choses super intéressantes qui montrent quand même une volonté de rompre, très claire. On voit là, ça va être plein de questions. On va commencer directement. Est-ce qu'on est d'accord déjà pour dire que le problème, c'est le capitalisme ? Est-ce qu'on n'est pas dans l'ère du capitalocène ? Voilà, capitalocène, ça voudrait dire que ça y est, on est arrivé dans un ère où le mode de vie global de l'humanité est dominé par le capitalisme, un capitalisme fossile qui a pompé les ressources premières, les matières premières, et on en arrive à une impasse écologique, catastrophique, impasse sociale. On est d'accord pour dire, pour partir sur ce constat-là ?
Je dis un mot là-dessus. Le capitalocène, c'est une notion qui est intéressante parce qu'elle permet de poser le problème historiquement du côté des causes de l'origine, d'une certaine façon. C'est les études liées à la question du changement climatique et de l'extinction de la biodiversité qui proposent ça. Ça permet de dire, finalement, la responsabilité historique en termes d'origine de la situation catastrophique dans laquelle on se trouve, elle est liée à un mode de production déterminé, et donc au développement du capitalisme. Il y a d'autres alternatives. Hein. Certains disent plantatiocène en disant ça vient de l'esclavage, de la question coloniale, etc. D'autres disent en réalité c'est l'anglocène, parce que la responsabilité est d'abord à placer sur
L'anglocène, vas-y, explique.
L'anglocène, c'est de l'accumulation primitive du capital, elle s'est faite au Royaume-Uni d'abord. Okay. Et ensuite, il y a l'expansion avec la marine. En gros, la puissance maritime d'emblée, c'est le Royaume-Uni. Donc ça, il y a certains disent ça. Et en fait, tous ces débats-là sont articulés d'abord à la notion d'anthropocène. Mmh. Et l'anthropocène, ça veut dire qu'à un moment donné, l'humanité en tant que telle a affronté quelque chose, finalement, qu'elle n'a jamais eu comme problème auparavant dans son histoire. Ou en tout cas, pas qu'on sache, parce qu'il y a sans doute eu des phases, il y a vraiment très très longtemps, où on a risqué de disparaître. Mais là, c'est vraiment la question de la survie de l'espèce humaine qui se pose avec le changement climatique. Et on retrouve des questionnements qui pouvaient être ceux de beaucoup de monde au moment des années 50 et juste après la création de la bombe atomique. Parce qu'on se pose collectivement cette question. C'est pour ça que capitalocène, c'est juste du point de vue des responsabilités historiques, mais du point de vue du problème, je pense que la notion d'anthropocène, elle est aussi à sauver, puisque la possibilité, on va dire, de disparition à moyen terme de l'humanité, elle produit une unité négative. On est tous dans le même bateau. Mais dans le même bateau, en revanche, il y a des rapports de force constitutifs de la situation actuelle où on se dit, mais il y a des intérêts, effectivement, capitalistes, etc., qui font le pari de la destruction de l'humanité, manifestement. Puisque les points de rupture auxquels nous arrivons sur le plan des écosystèmes ne produisent pas pour l'instant des points de rupture qui seraient pourtant nécessaires sur le mode de la production et de la consommation. C'est ça qu'on veut commencer à entamer, à partir du pouvoir d'État. C'est pas la seule manière de le faire. On peut le faire en proposant des contre-modèles, etc., X ou Y. Y a des néo-ruraux qui font d'autres manières de construire l'agriculture. Il y a plein de manières d'envisager des alternatives. Mais je pense que le pouvoir d'État, dans une société qui, en plus, comme la France, s'est beaucoup construit autour de l'État, est quand même une question à laquelle on peut pas échapper. Et c'est pourquoi on porte, nous, ce combat de ce côté-là.
Alors, tout de suite, là, tu poses le problème fondamental qui va parcourir notre discussion, puisque tu utilises le terme « pouvoir d'État ». Et c'est pour ça que vous êtes dans un mouvement qui participe aux élections. Un mouvement qui a une vraie force. Hein, je veux dire, il y a eu des résultats, là, les dernières élections. Et puis, il y a un mouvement en 2017 aussi qui a commencé à émerger sur le plan électoral. Cette notion de pouvoir d'État, on y reviendra. Mm-hmm. Juste sur le constat, tu as parlé de mode de production capitaliste et tu as renvoyé à la notion d'anthropocène. En disant le mode de production capitaliste, c'est la situation historique qui explique la catastrophe. Mm-hmm. Moi, je suis entièrement d'accord. Du coup, moi, je préfère utiliser des termes comme capitalocène ou plantationnelle, parce que là, ça nous concerne directement aujourd'hui, là, et puis pas partout dans le monde. Donc la notion d'anthropocène, pour moi, elle est tellement floue, voire dépolitisante. Les Indiens d'Amérique, ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe. La destruction là, de l'écosystème, la destruction du vivant. Je pense que voilà, on peut multiplier des exemples.
D'un autre côté, ils peuvent aussi proposer, enfin donner à voir, en tout cas donner mode d'organisation des êtres humains entre eux, et justement répondre aux défis de l'anthropocène qui unissent l'humanité. C'est ça la seule chose que je dis.
Exactement, mais il y a cette unité de l'humanité, là, elle vit sous le joug du capitalisme, pour faire simple. Donc ce qui se passe, c'est une crise des sociétés capitalistes qui ont dominé toute la planète.
Oui, si d'ailleurs, menace ces cultures-là d'extinction.
Les cultures indiennes ou les cultures amérindiennes ou d'autres endroits sur la planète n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Ils subissent, ils ont été dominés, ils ont été massacrés, etc.
Là, on peut penser aussi à la culture populaire bretonne. Hein. À un moment donné, la paysannerie, je veux dire, était massive en Bretagne. Elle a été, dans la phase de création de l'agriculture intensive en capitale, complètement détruite, et avec elle, une certaine partie de la culture populaire en Bretagne. D'accord. Je veux dire, un processus qui ne concerne pas que les Indiens en Amazonie, c'est un processus général.
Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui veulent réagir déjà à ce premier point, définir clairement contre quoi on se bat.
Moi, je trouve qu'il y a un auteur intéressant, c'est Andreas Malm, sur justement la différence entre anthropocène et capitalocène. Et comme tu l'as dit, anthropocène, c'est très dépolitisant et ça cible l'homme en général, comme s'il n'y avait pas des responsabilités différenciées. Donc, à savoir entre les pays avancés du capitalisme, donc ceux qui ont fait l'accumulation primitive, l'esclavage. Donc, pour moi, le terme que vous avez employé par rapport à l'esclavage, j'ai oublié.
Plantatocène,
pour moi, il est inclus dans capitalocène. Et donc, voilà, la notion de capitalocène désigne mieux les coupables, quoi.
Ouais.
Et permet de politiser et de proposer des solutions qui vont à la racine du mal, entre guillemets, et donc qui est la possibilité d'aller vers un changement de mode de production. Et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouvais, dans le programme de l'Avenir en commun, et puis maintenant de la NUPES. C'était cet aller vers l'écosocialisme, même si le mot est rarement employé maintenant par Jean-Luc Mélenchon et tout ça. Et donc voilà, quand même avec un changement systémique, même si c'est pas la socialisation demain matin des grands moyens de production, de toute l'économie, et c'est pas... Donc voilà, ça reste un programme social-démocrate dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de vraiment quand même changer le mode de production, et c'est un premier pas, quoi. Qui est pour moi à faire et que voilà que je pense qu'il y a ça vaut le coup en fait de tenter ce vote là quoi.
En tout cas, le programme et les mesures qui l'accompagnent sont à la hauteur de l'enjeu, j'ai l'impression.
Ben,
qui est la destruction du vivant, la destruction de l'humanité, comme tu as dit.
Ben, en tout cas, il y a un enjeu de rupture, comme on disait tout à l'heure. Et ce qui est clair, c'est qu'on essaye de la penser positivement à partir de plusieurs points très concrets. Si on prend la biodiversité, il y a des choses quand même assez simples. Hein. On a foutu en l'air des milliers de kilomètres de haies dans notre pays ou de talus. C'est pas un truc impossible de faire un plan, mais massif, de reconstruction de ces haies, etc. Et là, on sait qu'on récupère immédiatement beaucoup de biodiversité, notamment en termes d'oiseaux, d'insectes, etc. Donc il y a la rupture. Elle se pense concrètement à chaque fois. C'est ce qu'on a essayé de proposer aussi quand l'année dernière, en Bretagne, on s'est dit, mais finalement, comment on se pose la question agricole ? Il faut effectivement la poser du point de vue de comment on construit une agriculture compatible avec les milieux de vie, mais il faut la poser aussi à partir de l'intérêt des agriculteurs. Alors, ça suffit pas de dire, tiens, il y en a un qui s'en suicide tous les deux ou trois jours, et puis de dire, bon, bah ouais, mais de toute façon, c'est pas bien les pesticides. Non, parce que là, avec ce genre de dichotomie, on fait rien. Il faut partir de la condition des producteurs. Et donc, on s'est dit, mais finalement, pourquoi il y a une situation économique si difficile pour beaucoup de monde ? Ben, il y a un surendettement lié au mode de production agricole actuel. Il y en a beaucoup qui ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent même pas opérer une transition s'ils sont surendettés. Et donc, et maintenant, ça figure dans le programme même de l'Union Populaire, mais ça vient de nous, hein. Ici en Bretagne. On a dit, ben, il faut mettre en place des mécanismes d'annulation de la dette paysanne pour aller vers la conversion des exploitations en bio et sur un modèle social où il y a plus de monde à bosser. Donc en fait, ce que je veux dire en disant ces deux exemples-là, les haies et puis l'annulation de la dette paysanne, c'est que à chaque fois, la façon dont on envisage la rupture, elle est concrète. Elle part d'objets concrets. C'est-à-dire que, parce que comme ça, en fait, on produit, on n'est pas dans le débat idéologique pur. On dit, à partir d'une situation matérielle donnée, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on fasse ça ou pas ? Et c'est comme ça qu'on peut construire des majorités populaires. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle union populaire. C'est-à-dire, on part directement de quelque chose, et donc on se projette. Et c'est pour ça que le débat capitalocène-anthropocène, c'est aussi ça. Est-ce qu'on est d'accord pour se projeter tous ensemble ? Est-ce qu'on est d'accord pour le faire en compte tenu de la conflictualité ? Mais le revers de la médaille avec le terme de capitalocène, c'est de dire, mais finalement, les riches, ils vont toujours s'en tirer. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, il y a un certain nombre d'études scientifiques où on dit, mais horizon 2100 aussi bien, si on continue dans les pires des trajectoires, on a des problèmes de production d'oxygène, carrément. Le phytoplancton, pouf, tout est foutu en l'air. Bah là, t'as beau être riche, je veux dire, tu vas pas vivre avec des bouteilles d'oxygène en permanence. Donc, voilà, il faut bien voir aussi, et justement, c'est aussi se porter à la hauteur de l'enjeu, que de dire, bah, d'une certaine manière, y compris ceux qui pensent que leur intérêt à court terme et dans la continuité de ce système d'accumulation, se trompent. Et on peut en convaincre un certain nombre. Hein.
Je pense que je pense que les riches, ils s'en foutent de 2100. Hein. Honnêtement, ils pensent qu'à court terme, ils en ont rien à foutre si en 2100, il faudra vivre avec des bouteilles d'oxygène. Hein. Ils s'en foutent même de leur propre descendance. Donc là-dessus, j'ai un doute quand même.
Oui, voilà, mais c'est pour ça qu'il faut être dans la conflictualité, mais toujours en tentant quand même de convaincre.
Non, mais je pense qu'il faut quand même assumer une lutte de classe, quoi, parce que je partage un peu l'opinion quand même que les riches réfléchissent quand même à des manières en fait d'aller dans les canoës de sauvetage pendant que le bateau coule, quoi. Donc racheter des terres en Nouvelle-Zélande, etc. Enfin bon, de pouvoir s'en sortir pendant que, en gros, ça crève à côté d'eux. Même s'il faut aussi se dire qu'il y a un moment, ils ont peut-être le retour de bâton de ce sauve-qui-peut égoïste qui est censé leur profiter d'après eux. Mais voilà, donc il y aura une conflictualité quand même à assumer.
Ah oui, ça c'est sûr.
Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Du coup, on va continuer sur la question de la stratégie politique. Du coup, tu as parlé de prise de pouvoir d'État, de création d'une majorité populaire, etc. Du coup, là, on est vraiment dans la stratégie politique.
Oui.
Comme on fait pour faire gagner nos idées, hein, grosso modo. La NUP, est-ce que c'est une alliance électorale ou une alliance plus large de rupture plus fondamentale ? Question simple, mais derrière, c'est l'idée, du coup, là, il faudrait avoir une discussion sur le rôle des élections dans notre démocratie, sur leur sens. Est-ce que ça a un sens, en fait, d'essayer de combattre par ce moyen-là, ce mécanisme institutionnel d'un État néolibéral, bourgeois ? Je ne sais pas, dans l'histoire récente... le gouvernement français, c'est parfois complètement... il n'en a rien eu à faire des résultats des élections. Prenons l'exemple du référendum de 2005.
Donc, c'est intéressant de partir...
Après, il y a plein de questions derrière. Un abstentionnisme massif, qui est la première force, en fait. Hein, si on reste cantonné sur le point de vue des élections, sur ce mécanisme-là, c'est le bloc majoritaire, c'est les abstentionnistes.
Quatrième bloc, quoi, c'est pas le majoritaire.
En termes de voix, si. Après, en fait,
c'est dans les mêmes zones.
C'est dans les mêmes zones.
Après, dans les mêmes zones, les trois autres blocs.
Après, je sais pas si c'est le bon terme de parler de bloc, puisque du coup, par définition, les abstentionnistes, c'est divers et varié. Ils n'ont pas les mêmes idées derrière sur leur non-participation. Du coup, je ne sais pas.
Il y a aussi un taux de vote blanc qui n'est pas à négliger, hein, qui monte. Qui est assez important aussi.
Bon, bref, le sens des élections. On peut partir sur cette discussion-là. Moi, je rappelle, ça c'est mon point de vue, pour moi, les élections, c'est un principe non démocratique, c'est un principe aristocratique. Élire des gens qui sont soi-disant experts dans la conduite des affaires. C'est à l'opposé de ce qu'on appelle démocratie.
Pourquoi forcément experts?
Des élus, c'est ce que ça veut dire.
Par exemple, il y a des candidats qui se revendiquent pas du tout comme experts. Par exemple, je voyais Rachel Keke qui parle beaucoup de sa condition de travailleuse sans se revendiquer experte en quoi que ce soit et qui part toujours de la vie quotidienne.
C'est très bien, je suis très heureux de l'entendre. Mais du coup,
qui a mené une sacrée lutte effectivement syndicale pour les femmes de l'hôtel Ibis. Ouais.
Donc repartons de la première question, stratégie électoraliste ou stratégie plus large de conquête du pouvoir qui créerait une dynamique derrière avec les mouvements sociaux, oui ou non? Sachant que quand même il y a plein de questions qui se posent, parce que je prends un exemple. Juste avant le premier tour de l'élection présidentielle, il y a eu un appel à manifestation et à mobilisation des comités Adama et d'autres, de Gilets jaunes, etc., qui a complètement été ignoré par exemple par l'Union populaire et par d'autres. Alors qu'en fait, là, ils portent des questions fondamentales sur la violence d'État, sur la justice sociale, etc. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire?
Il faut quand même repartir. On a parlé pendant toute la première partie de l'émission de la situation de rupture. Donc je pense pas que ce soit un luxe qu'on puisse se payer d'abandonner un champ de bataille auparavant. De dire, les élections, finalement, on s'en fout, parce que c'est pas là que ça se passe. Parce que l'appareil d'État, on peut dire, finalement, ça sert à rien, les élections, ça nous plaît pas. Mais l'appareil d'État, il existe. Et ça fait bien longtemps que ça se dit. Genre, Marx, il se moquait déjà de Bakounine à l'époque. Parce que quand Bakounine dit « je dissous l'État par décret », le mec, il se fait emprisonner le jour même. Alors Marx, il dit « bah mon gars, tu l'as dissous par décret, mais ça t'a pas empêché de finir en tôle ». Donc le problème, c'est quand même il faut partir du réel à chaque fois. On part du réel et de la puissance d'État. Aujourd'hui, on a notamment, sur le plan de l'appareil répressif d'État, une montée en tension depuis le quinquennat Hollande. C'est les premières manifestations où ça a vraiment commencé à craindre dans le pays, c'était la loi travail en 2015. Et ensuite, ça n'a fait qu'empirer avec les gilets jaunes, où il y a eu une violence vraiment qui s'est déchaînée contre... Je pense pas qu'on puisse considérer que ce soit la même chose
Une violence de l'État vis-à-vis du mouvement,
c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Je pense pas qu'on puisse considérer que ce soit la même chose que le ministre de l'Intérieur soit issu de la nouvelle Union populaire et tienne d'une certaine manière la police avec une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, ou qu'on laisse celle-ci s'empirer, s'accroître et s'aggraver. C'est pas neutre, en fait, comme question. Et c'est pareil pour la question du partage des richesses, c'est pareil. À chaque question, je veux dire, ça change la nature du rapport de force si on parvient à l'emporter et à avoir un gouvernement. Donc les élections participent de cette bataille-là, à la fois sur le plan idéologique et en cas de majorité parlementaire, sur le plan concret des politiques menées, et en cas d'opposition, on va dire, large, sur le plan du soutien aux mouvements sociaux. Parce qu'il peut y avoir une interaction... On l'a bien vu pendant le mouvement des retraites, par exemple. Si on n'avait pas eu notre groupe parlementaire, la réforme, elle serait passée probablement comme une lettre à la poste, parce qu'on a fait traîner, et puis à un moment donné, elle s'est cassée sur le Covid. Alors ça, c'était une convergence de facteurs qu'on ne pouvait pas anticiper.
C'est plutôt le Covid qui a stoppé la réforme.
En décembre, elle serait passée sans le groupe parlementaire. Parce que le débat aurait été plus rapide. Donc oui, des questions vagues et abstraites. C'est très concret. Quand les députés, ils bossent, quand il y a 17 députés qui bossent, qui mènent la bataille de tranchées dans les commissions parlementaires, ça leur fait pas plaisir d'être des experts ou je ne sais quoi. Ça leur fait plaisir d'accompagner la lutte sociale, le mouvement social. Moi, ça fait 5-6 ans à Brest, je suis à chaque fois de toutes les manifs. Parce que ça fait partie de ce qu'on représente, de ce qu'on est, etc. On est engagé, c'est pour ça. Et donc, il n'y a pas à opposer les conceptions entre elles. Nous, ce qu'on a dit, de toute façon, ça fait longtemps qu'on est dans cette perspective-là. Mélenchon, il y a quelques années, il dit « on va faire un congrès de tour à l'envers ». Mais ça va même encore plus loin, ce qu'on est en train de faire. On a créé des passerelles entre différents secteurs de la gauche qui, au XXe siècle, ne se parlaient plus quasiment. Et maintenant, vu la situation, l'urgence de la situation, on ne peut pas... se complaire à des discussions idéologiques sans objet. Il faut partir des objets. Et donc, partir des objets, ça veut dire partir de comment, par exemple, on fait pour que la police fonctionne autrement dans le pays. Comment on fait pour que le capital contribue à la transition écologique et non plus à, aujourd'hui, la destruction généralisée, la continuation des... l'exploitation des hydrocarbures, etc. Comment on fait pour que les gens partent à la retraite plus tôt ? Enfin bref, on part des problèmes, et après il y a plein de manières. On peut effectivement participer au mouvement social, participer au mouvement associatif, participer aux élections, mais tout ça c'est un même élan. On peut partir d'un même élan dans tout ça. Il n'y a pas moyen, enfin il n'y a pas besoin de se dire « Ah là là, non, c'est pas comme il faut. »
Moi j'étais pas dans l'opposition systématique entre mouvements sociaux, mouvements d'émancipation... le mouvement féministe, par exemple, le mouvement climat, etc., qui a une longue histoire, hein, déjà, en fait. Le mouvement climat, en fait, là, il y a les marches pour le climat, mais en fait, il y a une opposition, une résistance au dérèglement climatique et au dérèglement environnemental. Ça remonte à beaucoup plus loin. Mm-hmm. Je n'étais pas dans cette opposition systématique. J'essaye de faire la part des choses et essayer de se poser des questions ensemble, voir les critiques et les limites des stratégies. La prise de pouvoir par les élections, elle est intéressante si elle débouche sur un horizon révolutionnaire, en fait, on va dire. Si elle permet des conditions révolutionnaires.
Je peux répondre à ça ?
Vas-y.
Du coup, je pense qu'il faut sortir de la vieille opposition réforme-révolution. C'est-à-dire que il faut pouvoir articuler différentes modalités de lutte. Donc, à la fois participer aux institutions sans être naïf sur les possibilités ou en tout cas les freins qu'il y aurait à participer à la démocratie bourgeoise. C'est-à-dire que même si on a une majorité NUPES, les capitalistes comme ça vont pas rendre les clés de la baraque, vous êtes sympa, faites ce que vous voulez, tout ça. Il y aura des rapports de force à assumer, il y aura des contradictions très fortes, il y aura aussi des médias vent debout. Et pour moi, les élections sont aussi un moment. Donc voilà, je suis pas naïf, je suis pas dans la mythification des élections, à trouver ça génial et en pensant que ça résout tous les problèmes magiquement. Et elles permettent pour moi aussi une politisation des masses. C'est-à-dire que, et même dans une perspective révolutionnaire, ça peut être un moment tribun, le Parlement, d'attiser la lutte des classes et de politisation de masse. Et moi, il y a quelque chose que je reconnais quand même à Jean-Luc Mélenchon et à son équipe, parce qu'évidemment, il n'est pas tout seul, c'est d'avoir pu faire, par exemple, une chaîne YouTube qui a plus de 500 000 abonnés et qui fait de l'éducation populaire et qui a permis... d'aller sur le terrain contre-hégémonique pour réamener des idées de gauche et progressivement aussi anticapitaliste à minima, et avec par exemple la réintroduction du mot collectiviste, etc. et tout ça, et d'avoir permis cette politisation de masse quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui ont autant d'abonnés par exemple sur une chaîne YouTube, et pour moi c'est pas négligeable en fait ce que ça a permis. La campagne de Jean-Luc Mélenchon dans cette politisation, et s'il avait été au deuxième tour et qu'il avait fait un débat avec Macron, ça aurait été aussi un bon point dans cette politisation. Donc pour moi, c'est pas contradictoire en fait. Les élections, c'est nécessaire mais pas suffisant du tout. Il faut aller sur tous les terrains, il faut aller dans les luttes, mais vraiment quoi. Aller dans les luttes, c'est aller dans les AG, c'est aller sur les piquets de grève. C'est aller dans les syndicats, c'est aller dans les associations, c'est aller dans la vie quotidienne, dans la vie locale, et pas juste arriver avec le drapeau ou prendre la photo, tout ça, mais être vraiment partie prenante et en faisant à l'échelon local de la politisation aussi, dans ces AG et tout ça, et d'amener du contenu et aussi des savoir-faire pratiques, hein, parce qu'il y a besoin de ça dans les mouvements sociaux, à la fois sur le fond et à la fois sur la forme, c'est-à-dire tout ce qu'on peut amener comme compétences, entre guillemets, pratiques. Et donc, pour moi, j'espère que la France Insoumise et la NUPES en général comprendra que s'il faut durer, s'il faut s'implanter sur le territoire, s'il faut pouvoir se structurer sur le long terme, ça sera indispensable d'être pleinement présent dans les luttes, et qu'une fois les élections passées, il faudra toujours être là et pas rentrer chez soi et attendre la prochaine élection. Et ça, il faut que les militants de la France Insoumise, de la NUPES en général, en soient pleinement conscients et pour qu'ils soient présents après sur le terrain.
C'est clair, je dis juste un mot rapide là-dessus, moi. Tu vois, sur la participation aux âgés, etc., il y a aussi une tension qu'il ne faut pas se cacher. C'est aussi celle qui peut venir du mouvement social lui-même en disant « Ouh là là, il y a de la récupération politique ». Parce qu'imaginez, je suis élu le 19 juin, je déboule ensuite dans les âgés en disant « Allez, comment on va s'organiser ?» Bah là, il y a une petite tension, mais il faut toujours respecter aussi l'autonomie du mouvement social. D'autant qu'il y a une partie des gens qui peuvent parfois y être engagés, qui sont plutôt hostiles au processus électoral. Alors du coup, on a une tension, mais justement, il faut aller du côté de la complémentarité. Parce que, encore une fois, les luttes portent sur des objets concrets. Là, j'ai soutenu les soignantes des EHPAD de Brest. Je veux dire, quand des vieux se chient dessus et que personne ne peut aller les voir parce qu'il n'y a pas de moyens, c'est concret. Donc ça, c'est extrêmement concret. Et donc, le fait de mettre un budget supplémentaire en face de cette situation, c'est pas un truc idéologique non plus. En un certain sens, si, puisqu'on est du côté de la coopération, de l'entraide, etc. Mais enfin, globalement, quand même, tout le monde peut comprendre qu'il faut quand même qu'on puisse porter une attention minimale, respectueuse, digne aux gens qui sont dans ces... à la fois qui soignent et qui y sont. Ça, c'est une lutte. Par exemple, là, en ce moment, il faut être de leur côté. Hein. Demain, il y a en plus les soignants de l'hôpital et de la clinique. Et juste, je reviens sur réforme, révolution. Moi, j'ai jamais compris la différence, je veux dire. Parce qu'une fois qu'on fait, admettons, en disant c'est une question de méthode. Comment on prend le pouvoir d'État? C'était ça le vieux débat. Alors, on le fait pendant les élections ou on le fait autrement? Bon, déjà, autrement, il faudrait qu'on m'explique aujourd'hui. Je pense que, voilà. Bref, d'un côté. Et puis, de l'autre, bah, une fois qu'on l'a pris, eh ben, on fait des réformes. Hein. On fait quoi? Ils ont fait quoi partout? Ils ont fait des révolutions, bah, des réformes. Et il y a certaines réformes, là où on a fait, on est passé par le processus électoral, qui ont un caractère révolutionnaire. Quand on fait la sécurité sociale, et qu'aujourd'hui, c'est 700 milliards de la richesse qui est socialisée chaque année dans le pays, je veux dire, on fait plus capitaliste comme truc. Hein.
Là, si tu prends l'exemple de la sécurité sociale, c'est pas passé par un processus électoral. C'était plutôt un mouvement des militants CGT-PC.
Ils ont gagné les élections aussi.
Ouais, mais c'est eux qui ont mis la main à la pâte pour créer tout le système de la sécurité sociale.
Ouais, avec le CNR. Alors, et tout ça. Voilà.
CNR, il a plutôt freiné, voire apaisé.
Mais il était ministre, Ambroise Croizat. Il n'était pas dans la... Enfin bref, il était ministre.
Ouais, mais en fait,
ministre.
Après, c'est une bataille de mots.
C'est une réforme, la sécurité sociale.
Mais je suis entièrement d'accord. Mais non. En fait, derrière, c'est pas le même contexte historique, c'est pas la même forme
derrière.
Mobilisation, c'est pas la même éducation politique. Hein. Etc. Moi, j'ai un doute.
Mais c'est une réforme à caractère révolutionnaire.
À caractère révolutionnaire.
Ouais.
Mais en fait, derrière, il y a un vrai. Mais en fait, je suis d'accord sur cette fausse opposition révolution-réforme. Il y a des réformes qui permettent d'engager un processus révolutionnaire qui vont radicalement changer, subvertir le système. L'exemple type, c'est la sécurité sociale. Mmh. On est d'accord. Mais en fait, c'est pas venu d'en haut et d'un processus électoral, puisque c'est les militants qui l'ont mis
en
pratique.
Moi, si je suis candidat aux élections, tu crois que c'est parce que tiens, ça m'est passé, je me suis réveillé un matin. Mais non, c'est parce que je m'inscris dans un courant historique, je m'inscris aussi dans des luttes sociales, dans des collectifs, je rencontre des gens en permanence.
Je suis d'accord avec toi, mais là, élargissons le problème, je ne sais pas, moi je pose une critique sur ce truc-là. Mm-hmm. Je ne suis pas sûr actuellement qu'au niveau électoral, il y a un sens. Je ne suis pas sûr. Déjà, on parle d'une espèce de quelque chose qui reste de l'ordre du probable, hein, une majorité NUPES. On verra, je le souhaite, hein, mais peut-être qu'on est en train de parler sur quelque chose qui va ne pas se passer. Bon, bref.
Moi, je voulais juste intervenir. Vas-y. En fait, je pense que la grande manquante un peu de ce qu'on dit là, pour l'instant, c'est un peu qu'est-ce que l'État, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est foncièrement l'État en soi? C'est quand même un outil de la domination d'une classe sur une autre. C'est pas tant que ça un terrain où on pourrait avoir une espèce de débat consensuel où un coup, tac, on met un crochet, puis tac, on en prend un. Et ce que je veux dire c'est par là, c'est que du coup, l'État, ça s'inscrit foncièrement, la logique de prise de pouvoir étatique et compagnie, ça doit s'inscrire foncièrement dans une logique plus globale de lutte des classes, quoi. Mmh. Et en soi, les élections, bah, c'est aussi un moment pour la classe dominée d'essayer de rétorquer, de mettre une droite, entre guillemets, quoi, d'arrêter d'encaisser bêtement, quoi. Alors c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va mettre KO en soi, le système, entre guillemets, pour parler un petit peu vaguement, quoi, mais ça peut que aider, enfin, sans aller jusqu'à la compromission, enfin, je veux dire, mais ça peut que aider dans un moment comme le nôtre, où vraiment, on s'est fait marcher dessus, ça fait 20 ans, c'est atroce, quoi, enfin, on perd tous les droits, on regarde aux États-Unis, ils viennent de faire sauter l'avortement. Enfin, c'est un truc qu'on se dit, c'est pas possible, un truc pareil.
C'est pas encore passé aux États-Unis.
Ouais, mais c'est quand même bien, c'est enclenché, quoi. Il y a quand même, bah justement, là, il y a un bloc derrière cette loi structurée dans le camp républicain. Il y a rien qui nous dit que demain, regardons les législatives. Marine Le Pen, à chaque fois, elle se prend des piléos aux législatives. Mais ce coup-ci, il y a Zemmour. Ça, qu'est-ce qui nous dit pas que dans 20 ans, ça sera Zemmour qui fera 40% au second tour? Alors il y a un moment pour lutter contre ça, on peut pas juste se dire on va gagner, on va pouvoir prendre le contrôle de l'État depuis la rue, depuis le milieu associatif, depuis le syndicat. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette composante dans la lutte des classes, de pouvoir au moins se doter d'un... C'est une forme d'indicateur de maturité de la classe opprimée, les élections, à mon sens. Alors ça peut pas être plus, moi c'est mon point de vue, hein. Après je suis communiste, je sais voilà, d'où je parle, quoi. Mais foncièrement on peut pas s'en passer non plus, quoi. Ça, je pense pas qu'on pourra un jour lutter contre, avec des grosses guillemets, le capitalisme ou la bourgeoisie ou la haute finance, ainsi de suite, sans à un moment quand même se doter des instruments nécessaires à ça. Alors c'est le syndicat, c'est le monde associatif, c'est plein de choses, mais c'est aussi, et à mon sens surtout aussi, quoi, hein, un parti politique qui arrive à mener des élections, qui a l'organisation nécessaire pour pouvoir avoir des députés dans chaque territoire, pouvoir mener des combats sur tous les sujets. Pas que l'économique, l'écologie par exemple, c'est quelque chose qui est apparu ces dernières décennies. Ben, on voit maintenant qu'on a des gars comme Pierre-Yves qui sont capables de remonter des trucs de syndicats comme la Confédération Paysanne, qui ont des propositions concrètes, comme tu disais, tu vois. C'est-à-dire que c'est des gars, ils sont sur le terrain, ils sont dans la lutte, mais eux, ils peuvent pas aller à Paris, quoi. C'est-à-dire ils sont occupés dans la vie à pratiquer ce qu'ils promeut, quoi. Et il faut un moment quand même des relais, quoi. Tu parlais aussi de démocratie, alors... La démocratie, dans son sens historique, c'est on est à Athènes, quoi. La République, c'est quand même plus l'apport de Rome, par exemple. Où, alors après, il faut réussir à combiner tout ça, mais je pense pas en soi qu'on pourra partir d'une AG ou d'un truc purement mouvement social, sans jamais vouloir prendre de frontalement l'aspect de lutte des classes qu'il peut y avoir dans les élections. Sans
je suis entièrement d'accord.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à faire une jonction... des luttes légales, c'est-à-dire, légales, bon, je ne sais pas forcément montrer le bon mot, parce que ça sous-tendrait qu'il y en ait qui seraient illégales, je veux dire.
Institutionnelles.
Institutionnelles, voilà.
Il y a des institutions qui existent, bon, voilà, on ne les choisit pas, on fait avec.
Ouais, mais on se fait prendre dans la face.
Pour dire très simplement, mais entièrement d'accord avec toi. Vois, alors, en fait, après, la question plus largement, c'est la politique. Qu'est-ce qu'on entend par faire de la politique ? Une définition simple de la politique, c'est comment on veut organiser la société.
C'est toutes les formes qu'on a parlé avant aussi, hein, faire de la politique. C'est-à-dire participer aux élections, c'est-à-dire être dans le syndic, enfin être dans les luttes, on va dire.
Les idées.
La production d'idées, donc je pense qu'il y a l'importance de journaux, de propagande au bon sens du terme, c'est-à-dire diffuser des idées. Tout ce qu'on a cité avant, qui est de luttes qui peuvent s'articuler, hein, même des assemblées, de villes, d'entreprises.
Ce qui peut l'articuler beaucoup, c'est aussi le parti politique, quoi.
Le parti.
Et là, on a, là, c'est là, pas là, un gros mot, quoi.
Ou le mouvement, ouais. Mais
si ouais, on... ou le mouvement, excuse-moi.
Mais si on prend la question de la crise sanitaire, par exemple. Le moment où ça démarre, Jean-Luc Mélenchon, il dit. Voilà, enfin, c'est la position qu'on défend à ce moment-là. Il dit qu'il faut que les collectifs de travailleurs s'organisent eux-mêmes parce que c'est eux les plus compétents pour savoir comment travailler dans des bonnes conditions dans l'épidémie. Évidemment, le gouvernement n'a pas accepté de mettre le moindre doigt dans ce processus. Parce que si tu fais ça, et j'en parlais justement avec les soignantes des EHPAD là, dont je parlais, elles disaient bah oui, c'était nous les plus compétentes à savoir comment faire. Mais sauf que si tu fais ça, tu fais prendre conscience de, mais alors massivement dans le pays, que les plus compétents, les plus qualifiés pour décider de comment ça se passe sur les lieux de production, les lieux de service, etc., bah, sont les travailleurs eux-mêmes. Et donc la question démocratique, il faut la poser sur le plan des institutions, etc. Nous, c'est la 6ème République, enfin bon, ça on peut en discuter. Mais il faut aussi la poser sur le plan économique. Et quand on dit planification.
Démocratie au travail, ouais.
Voilà. Et quand on dit planification écologique, on dit le compte-goutte de la planification écologique qui passe par la commune. Donc tout ça, ça fait écho au texte, par exemple, de Murray Bookchin et tout, sur le socialisme municipal, l'éco-socialisme municipal. On part de la commune, et la commune, c'est les boîtes qu'il y a sur la commune, les exploitations agricoles qu'il y a sur la commune elle-même, la mairie, quoi, les institutions publiques, les collectifs qui s'y organisent, bref, c'est comme ça qu'on peut penser. À Brest, par exemple, moi je me dis, bah, c'est quelque chose à mettre un peu à l'ordre du jour, c'est dire, bah, sur 15 ans, on s'organise pour qu'il y ait une ceinture maraîchère à Brest. Ça, c'est un objectif qu'on peut collectivement se donner. Moi, je connais plein de gens qui sont motivés pour aller faire ça.
Ouais.
Non, je me demandais si on faisait pas une petite pause musicale, histoire de, tu vois, de laisser les gens à l'écoute se reposer un peu, et on revient dans le débat après. Qu'est-ce que t'en penses?
Allez, on fait une petite pause, et puis on finira...
Ça va, tout le monde?
On finira le débat.
Ouais, très bien, très bien.
Eh ben, on va vous proposer un petit Nina Simone. Ça va être un spécial pause Nina Simone aujourd'hui. Et on va commencer par Feeling Good. Ça, hein?
Allez.
Et on revient juste après.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. I feel river running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.